RMC Intégral Tour. Céline Géraud.
L'Intégral Tour ensemble jusqu'à 20h. On retrouvera bien sûr un peu rentru à l'arrivée de la 8e étape dans quelques secondes. Cyril Guimard et Christophe Cessieux. En attendant, c'est le journal des sports version light avec Martial Fernandez.
RMC Sport.
On s'en doutait depuis hier, et bien c'est désormais bouclé. Les négociations ont été rondement menées entre la Fédération et Didier Deschamps.
Les deux parties sont tombées d'accord et la discussion n'aura duré qu'une journée à peine. Guy Stéphan, qui accompagnait Deschamps à Marseille, sera en équipe de France l'adjoint de l'ancien entraîneur de l'OM. Noël Le Graët voulait aller vite, c'est fait. Au final, un contrat de 2 ans avec une option pour 2 années supplémentaires. Ce qui veut dire que Deschamps n'est pas certain d'être encore en poste pour l'Euro 2016 en France. Dommage pour Alain Giresse, Deschamps ne pourra pas travailler sur le long terme.
Moi, ce qui me gêne toujours, c'est que ça soit toujours lié au résultat. On fait du coup par coup, quoi. Prendre un entraîneur pour 2 ans, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, on change et on part à zéro. Et moi, je dis, sur le fond, on n'avance pas tellement. C'est pas en partageant à chaque fois qu'on arrivera à avoir ce qu'on veut, une vraie équipe avec un état d'esprit, des bases de fonctionnement, des références après dans le jeu. Ça, c'est clair.
Alain Giresse, joint par Guillaume Palacios, Didier Deschamps, qui sera sans doute présenté officiellement dès demain à son nouveau poste, donc, de sélectionneur de l'équipe de France.
Et d'autres réactions et toutes les infos sur ce dossier dans l'after avec Florent Gautreau et toute son équipe à partir de 22h. Allez, le Tour de France et une victoire française aujourd'hui à Port-en-Truy pour Thibaut Pinot.
Le premier succès d'un Français sur ce Tour 2012 qui gagne en Suisse, le jeune coureur de 22 ans, le Benjamin du Tour qui gagne pour sa première participation. Incroyable numéro pour résister sur la fin d'étape au retour des cadors du classement général et un final assez spectaculaire avec le groupe maillot jaune de Bradley Wiggins qui s'est rapproché pour finir seulement à 26 secondes. Le vainqueur du jour n'en a fait qu'à sa tête parce que au départ ce matin les ordres étaient clairs, il devait se préserver pour la suite du tour. Thibaut Pinot au micro de Pierre-Yves Leroux.
J'ai fait un peu ma tête de mule aujourd'hui, donc j'avais consigne de rester avec les gros aujourd'hui, mais quand j'ai vu la bataille qu'il y avait, j'avais des bonnes jambes, donc j'ai dit je savais que l'échappée allait au bout, donc je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui quoi.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête là sur le dernier kilomètre?
Quand j'ai vu que la voiture restait toujours derrière moi, ça veut dire qu'il y avait encore 30 secondes, j'avais vraiment peur que le peloton revienne dans les derniers kilomètres parce qu'il y avait vraiment vent de face et j'étais épuisé. Mais bon, j'arrive avec un petit. J'ai pu profiter un peu de ma victoire dans les 500 derniers mètres et j'étais vraiment que des frissons quoi.
Marc Madiot vous a pas trop cassé les oreilles derrière?
Non. J'étais vraiment dans mon truc, je voyais qu'il m'encourageait, mais ça me booste vraiment quoi.
Ouais, c'est vrai que le spectacle était aussi dans la voiture de l'équipe de Pinot, celle de Marc Madiot, le manager de la FDJ, qui a vécu de l'intérieur cette victoire avec beaucoup d'émotion.
C'est le moment qu'on a envie de vivre, donc on essaie de savourer pleinement quand ça se produit. Ça arrive pas souvent, donc c'est fort. On fait ça pour ça. Hein.
C'est un jeune coureur, on sait qu'il a un beau potentiel. Et puis gagner avec des jeunes, c'est toujours très excitant. On l'a fait au Dauphiné avec Bichot, on a fait un doublé au championnat de France avec Boigny et Demar. Et là, on gagne sur le tour encore avec un jeune coureur. C'est des gars qui ont entre 20 et 22 ans, ou un petit peu plus pour Arthur, qui a 23 ou 24 ans. Donc c'est le signe qu'on a un vrai réservoir de jeunes dans l'équipe et pour nous c'est important pour l'avenir.
Pas de changement, classement général, Wiggins en jaune avec 10 secondes d'avance sur l'Australien Cadel Evans et 16 sur l'Italien Nibali. Demain ça va bouger Céline avec un contre-la-montre très attendu, 41 km entre Arc-et-Senans et Besançon.
Et pendant ce temps-là, Wimbledon, finale palpitante entre Federer et Murray, un dénouement tout proche hein, Martial.
On va retrouver Eric Salio, ça sent la fin Eric, même si Andy Murray s'accroche jusqu'au bout.
Ah, il s'accroche admirablement l'écossais, mais c'est vrai qu'il est dos au mur puisqu'il est mené 2 manches à 1 et 5 jeux à 3 à Federer dans ce 4e set. L'écossais qui était à 2 points de la défaite sur son service, mais là il s'en sort, il va obliger le Suisse à servir pour le gain du match, donc dénouement dans 1 minute 30, Federer qui va servir pour le match à 5 jeux à 4 au 4e.
Merci Eric et on va suivre la fin de la rencontre dans quelques minutes avec vous.
Bien sûr, on reste ensemble avec Eric Salio du côté de Wimbledon. Allez, un point Formule 1, c'était sur RMC cet après-midi, le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone et la deuxième victoire de la saison pour Mark Webber.
Webber qui s'impose devant Fernando Alonso et Sébastien Vettel, c'est le podium du jour pour le 9e Grand Prix de la saison sous une météo finalement clémente, conditions inattendues, piste sèche. Romain Grosjean lui se classe 6e après avoir été accroché dès les premiers tours de ce Grand Prix au classement des pilotes. Alonso et sa Ferrari toujours en tête devant 2 Red Bull. Weber est à 13 points et Vettel à 29 points. Et puis en moto, la victoire en moto GP de Pedrosa. Un dernier mot pour terminer du golf avec la victoire finale de l'Allemand Marcel Siem. 8 coups sous le par, le Français Raphaël Jacquelin lui termine 3e à deux coups de l'Allemand vainqueur.
Merci Martial. Et on part tout de suite du côté de Port-en-Truy, retrouver Christophe Cessieux et Cyril Guimard pour nous faire revivre cette formidable étape et cette victoire tellement rafraîchissante de Thibaut Pinot. Salut Christophe.
Salut Céline. Effectivement, on s'est régalé aujourd'hui et on s'est rafraîchi avec cette magnifique victoire du Benjamin du Tour de France. 22 ans seulement, Thibaut Pinot qui a réglé tout le monde. On va évidemment revenir sur cet exploit avec toute la Dream Team rassemblée à mes côtés, Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon, qui n'est pas avec nous, mais qui est avec nous par la voix, et c'est le plus important. Mais avant cela, évidemment, on va retourner à Wimbledon, retrouver Eric Salio, car c'est peut-être le dénouement dans quelques instants de la finale de Wimbledon, et Roger Federer risque de rajouter une petite supplémentaire à un palmarès déjà incroyable, Eric.
Ah, c'est un drôle de risque, non, c'est génial ce qui se passe, puisque Federer sert pour le gain du match, et il a perdu le premier point, ça a déclenché une ambiance hystérie dans les tribunes, car les Anglais, les Britanniques veulent encore y croire, même si le score est contre Murray, puisqu'il est mené 2-1, 5-4 au quatrième. Federer donc qui est mené 15-0-15, qui va peut-être revenir à égalité. Attention, oh, le lob out, 15-A, il revient donc à 3 points de la victoire. Il y a 2-3 minutes il était arrivé à 2 points de la victoire, le Suisse, sur le service d'Andy Murray. Mais Murray avait été très solide, mais on sent bien qu'il est vraiment au bord du gouffre. Il a un petit peu baissé par rapport à la première manche qui avait été somptueuse de sa part. Il a eu ses chances dans le deuxième, 4 balles de break, dont une à mon avis qui va peut-être le faire cauchemarder. Mais depuis une heure et demie, Federer est au-dessus, service gagnant du Suisse, 30-15, à 2 points d'un 7e titre ici. Il égalerait Sampras, mais aussi il le dépasserait, puisque il serait assuré de retrouver la place de numéro 1 mondial.
Incroyable.
Pour la 286e semaine, et évidemment le 16 juillet il sera tout seul au monde, puisque qu'il n'y a pas de tournoi, enfin les stars ne sont pas engagés les tournois la semaine prochaine, il serait seul au monde avec ce record. Un ace, oh là, il a trouvé la ligne, Federer encore, c'est pas possible, service sur le T, on a vu la craie s'élever, donc ça fait 45, 2 balles de match pour Roger Federer.
Et le public Murray, britannique, qui n'en revient pas, qui continue d'applaudir mais qui n'y croit plus. Hein.
C'est ça qui est admirable. Mais ils sont aussi admiratifs. Je pense qu'il y a des fans absolus du tennis, parce que ce qu'a montré Federer, c'est tout à fait époustouflant. Le service de Federer annoncé faute. Il n'est pas convaincu, Federer. Bon. Il n'a pas demandé le challenge. Alors qu'il a regardé l'arbitre espagnol Molina. Deuxième balle de service pour Federer, aller dedans. Le retour de Murray en revers, l'échange qui s'installe. Federer qui met dans le filet. Ah, première balle de match sauvée par Andy Murray, qui croit encore en ses chances. Il n'y a que 5-4, Christophe. Hein. Tout est possible encore.
Bien sûr,
il faut juste effacer cette deuxième balle de match, et ça pourrait évidemment changer complètement la tournure de cette finale, qui restera quand même historique, qui restera particulière, puisqu'elle a été interrompue par la pluie et qu'elle s'est finie en indoor. Et c'est vrai que ça a dû avantager Federer, qui sert encore. Attention, il y a un bon coup droit à jouer pour Federer, le passing out, et Federer qui tombe à terre, qui remporte son 7e Wimbledon. Il n'en croit pas ses yeux, 7e Wimbledon pour Roger Federer à 30 ans, 17e slam, place de numéro 1 assurée, et 0-4 en finale de Schlem pour Andy Murray. Voilà, tout est dit, c'est le plus grand champion de tous les temps qui vient de remporter un nouveau titre majeur sous nos yeux.
Et on vient d'entendre, alors ici tu sais qu'on est en Suisse à Port-en-Truy, on est à une quarantaine de kilomètres de Bâle, et tous les médias suisses sont évidemment en train de suivre la finale. On a entendu des applaudissements mesurés, on est en Suisse évidemment, mais en tous les cas on sent que là aussi la joie est intense pour ce
qu'il n'avait rien gagné en Suisse. Roger Federer,
c'est
et là il décroche le Graal, 6-4, 5-7, 4-6, 7-5, 6-3 et 6-4. Murray qui perd sa 4e finale de Grand Chelem, comme un certain Ivan Lendl, son coach. Bon, ça va sourire, hein, ça va rigoler un jour. Quand l'autre sera à la retraite, peut-être.
Voilà, quand l'autre sera à la retraite. Puis les deux autres aussi, hein, Djoko et Nadal.
Autres, les deux autres.
Parce qu'il n'est pas seul au monde, même si évidemment, il redevient numéro 1 mondial. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Ça valait une belle cote pour les paris.
Très ému, Federer.
Ouais.
Très ému. Il contient. Non, il n'y a pas de larmes. Mais il doit revoir toutes ses victoires, tous les moments difficiles, parce que depuis deux ans il a essuyé des critiques, hein, il gagnait plus rien, il était battu en demi-finale des Schlem par la nouvelle vague, hein, par Nadal, par Djokovic, et ses filles viennent d'arriver dans la World Box, dans la Players Box, donc sous les yeux de ses deux jumelles, Il remporte son tournoi préféré pour la 7e fois. Il égale Sampras, mais d'un autre côté, on l'a dit, hein, il le dépasse. Il va redevenir numéro 1 mondial. Ça, c'est énorme à 30 ans.
Voilà, et il tentera de devenir champion olympique également dans quelques semaines, ouais, sur ce même gazon de Wimbledon, qu'on va changer tout de même, hein, parce qu'il est, il me semble un petit peu abîmé, Eric.
On va pas le changer, on va travailler dessus, on va replanter des petites graines et tu verras, ce sera nickel.
Ouais, il y a quand même de l'émotion dans le regard de Roger Federer, c'est vrai qu'il n'y a pas de larmes, mais il y a quand même beaucoup d'émotion en tous les cas. Énorme, énorme Roger Federer, 17e titre en Grand Chelem.
Il fait coucou à ses filles là.
Ah oui, elles sont dans les bras de la babysitter, hein, c'est pas Madame Federer qui les porte. Hein.
Elle en a une et l'autre est dans les bras de la grand-mère, de la maman de Roger.
D'accord. Eric, on revient vers toi dans quelques instants pour la remise du trophée. En tous les cas, c'est l'une des infos de la soirée. Roger Federer qui redevient numéro 1 mondial et qui remporte pour la 7e fois le tournoi de Wimbledon, le plus mythique des tournois du Grand Chelem, et qui remporte aussi son 17e titre du Grand Chelem. C'est tout simplement énorme. On y reviendra tout à l'heure. En attendant, nous sommes donc en Suisse, ici à Porrentruy, où nous allons revenir sur une autre victoire incroyable, celle de Thibaut Pinot, le petit Français lève des Jeux, 22 ans à peine, qui a remporté tout à l'heure, au nez à la barbe de tous les cadors du peloton, l'étape arrivée à Porrentruy. Thibaut Pinot est-il la petite pépite, la petite merveille que le cyclisme français attend depuis si longtemps? On en parle dans un instant avec toute la Dream Team. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Voilà, nous sommes toujours sur la ligne d'arrivée à Porrentruy en Suisse, dans le Jura suisse, au terme de la 8e étape du Tour de France, donc remporté de main de maître tout à l'heure par un jeune Français nommé Thibaut Pinot, dont on va vous parler jusqu'à 20h et peut-être même au-delà, car ce garçon-là est probablement fait pour durer. En tous les cas, nous allons en débattre avec toute la Dream Team rassemblée à mes côtés. Cyril Guimard, dit le druide. Bonsoir Cyril.
Oui, bonsoir. Je crois que le druide a changé d'épaule.
Vous avez changé d'épaule, oui.
Oui, non, le druide, je ne veux plus m'appeler le druide.
D'accord, vous voulez comment, le petit rat alors?
Non, je veux m'appeler Christophe Cessieux.
Ah, tu y as fait mal, Christophe.
Ah, j'ai pris tous les maillots, on en parlera tout à l'heure, on va pas non plus se flatter. Ça va Thierry?
Ça va, très bien. Hein, bah, après une étape pareille, ça peut caler.
Bah, évidemment, on s'est régalé, on a vibré avec du suspense et puis surtout la réussite qui va au bout, parce que cette fois-ci, la FDJ et Thibaut Pinot l'ont mise au fond, comme on dit. Lucho, c'était énorme. C'est vrai qu'on a vibré, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vibré comme ça, hein, sur une arrivée d'étape.
Ah, bah, on était aussi content que Marc Madiou, peut-être pas aussi, parce que bon, mais Marc, c'est quand même son manager, c'est son mentor. On l'a vu d'ailleurs dans la voiture avec ses réactions. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir un Français de bonheur dans ce Tour de France gagner la première étape, et j'espère qu'il y en aura d'autres d'ici la fin du Tour.
Évidemment, on va se poser la question de savoir s'il est la petite merveille, la petite pépite que le cyclisme français attend depuis si longtemps, et jusqu'où peut-on rêver avec lui. En attendant, on va quand même revenir sur cette étape, Cyril, parce que Thibaut Pinot l'a construite très intelligemment, cette victoire, en faisant peut-être rouler d'abord l'un de ses coéquipiers, Jérémy Roy, qui a été l'auteur d'un très bon numéro, et puis ensuite il a su démarrer à temps dans la dernière ascension, le col de la Croix, revenir sur le Suédois qui s'était échappé, et il a réussi. Bon, c'est passé limite, mais c'est passé, et c'est aussi ça l'intelligence de course.
Oui, c'est passé limite. Il y a quand même 25 secondes à l'arrivée dans des circonstances de course qui ont été celles que vous venez d'évoquer. Ce qui est important, c'est qu'il fallait se trouver dans le groupe. Dans le groupe qui est parti, parce qu'il y a eu de très nombreuses attaques, et puis sur un coup Thibaut Pinot s'est infiltré dans ce groupe. Ils se sont retrouvés à une vingtaine en tête, et là le peloton à un moment a laissé faire. Alors c'est vrai que ça avait été très dur depuis le départ sur tous les petits cols. On avait vu d'ailleurs le vétéran du Tour de France, d'ailleurs peut-être un clin d'œil, le vétéran du Tour de France attaquer et partir dans un raid absolument extraordinaire. On s'est dit jusqu'où il va le vieux là, il peut sentir que les coups, donc il a mis tout le monde à la rupture. Un groupe de 20 s'est retrouvé à l'avant. Dans ce groupe de 20, il y avait effectivement Thibaut Pinot, il y avait aussi Jérémy Roy n'était pas là, il est revenu après sur le groupe de tête, et ce groupe de tête finalement a fini par creuser l'écart. Le peloton a lâché un peu. Bon, dans une course il faut toujours avoir un peu de réussite. Bradley Wiggins a eu envie de faire pipi à un moment, le peloton s'est arrêté alors que l'écart était toujours aux environs environ de 50 secondes. L'écart est monté à 2 minutes. Et à partir de ce moment-là, le coup était jouable et ils l'ont parfaitement joué. Et Jérémy Roy a été aussi, a été monstrueux dans cette étape. D'ailleurs, Thibaut Pinot va le remercier à la fin de l'étape parce qu'il a véritablement asphyxié tout le monde. Et dans le final, eh bien, il fera le numéro que seuls les jeunes coureurs de talent sont capables de faire, avec du culot, avec de la propos, et on pourra appeler ça une forme d'intelligence.
Voilà, il a su résister au retour du groupe Maillot Jaune qui, derrière, chassait violemment, non pas pour revenir sur Pinot, mais pour essayer de faire des écarts au général.
Et il y a eu des dégâts derrière aussi.
Ouais, il y a eu des dégâts. Il n'y a pas eu de dégâts pour les trois principaux favoris, que sont évidemment Bradley Wiggins qui reste ce soir en jaune. Cadel Evans est toujours deuxième à 10 secondes et Nibali troisième à 16 secondes. En revanche, Taramae, qui était quatrième ce matin, rétrograde à la dixième place au général à 2 minutes 27.
Oui, il prend une 50.
Voilà, hein. Le quatrième désormais, c'est Denis Menchoff. Emma Zubildia est cinquième. Chris Froome, le vainqueur d'hier, est sixième. Le premier français, eh bien, c'est Tony Galopin, qui lui aussi a été énorme. Il termine onzième et il fait un beau rapproché, notamment pour le classement du maillot blanc du meilleur jeune, puisqu'il est seulement à 46 secondes derrière Taramae. Et puis Thibaut Pinot, lui aussi, n'est pas loin à la 13e place. Alors, Thibaut Pinot, vainqueur aujourd'hui. Moi, je dis bravo au druide qui, il y a deux ans, lorsqu'on lui posait la question de savoir s'il y avait des Français d'avenir, des Français capables de briller dans les années à venir, dans les Tours de France à venir, nous avait cité Thibaut Pinot. Je dis bravo, t'aurais dû parier sur lui ce jour-là.
Il n'y avait pas de pari.
Mais c'est vrai que dès le début de sa jeune carrière, on a senti qu'il avait, enfin tu as senti en tous les cas, qu'il avait de réelles aptitudes pour briller dans les grandes courses.
Oui, je pense que Marc m'a dit aussi. Hein.
Oui.
Je pense que Marc m'a dit aussi, oui, non, c'est un coureur, comme le disait Frédéric Adam, qui n'arrive pas de nulle part. Depuis plusieurs années, on connaissait ses qualités de grimpeur. Et lorsqu'on évoquait, dans chaque génération, quel est celui qui pourra succéder à Jacques Anquetil, quel est celui qui pourra succéder à Bernard Hinault, alors on cite toujours un tas de noms. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais dit, on a un bon réservoir de jeunes, et ça se démontre aujourd'hui. On a une très très belle génération, y compris avec des sprinters. Et effectivement, Pinot en faisait partie. Et je l'avais dit en disant, mais surtout ne dites pas son nom, des fois que la tête dépasserait les oreilles. Donc, et puis surtout, on a tellement dit on a tellement donné de noms de coureurs qui allaient devenir des grands.
On attend tellement de
mais oui, mais il faut laisser mûrir, il faut laisser grandir. Et ce qu'il a fait aujourd'hui démontre qu'on ne s'est pas trompé. Est-ce qu'il gagnera le Tour ou pas? Ça, c'est un autre volet qu'il aura à écrire. Pour cela, je l'ai déjà dit, il a quelques petites carences dans son jeu. Il faudra qu'il essaye de les gommer. S'il y arrive, alors il fera partie vraisemblablement des grands du Tour de France.
Thierry, est-ce que Thibaut Pinot est un garçon qui t'impressionne? Est-ce que Thibaut Pinot est un garçon d'avenir? Est-ce que c'est la petite merveille qu'on attend depuis si longtemps? Quel est ton avis là-dessus?
Oui, parce que franchement, quand tu as parié sur Thibaut Pinot ce matin, hier soir même, après l'étape qu'il avait fait dans la planche des belles filles, je me disais qu'il pouvait pas, du moins il s'était bien accroché, il disait qu'il était assez fatigué, je le voyais pas refaire une belle étape le lendemain. Et là, franchement, il a su caler sa course correctement, attaquer quand il fallait. Et l'impression qu'il m'a faite, c'est vraiment dans la dernière bosse où il était sur un coussin d'air, il a passé le Suédois en l'enrhumant comme il fallait. D'ailleurs, il fallait vraiment qu'il l'enrhume à ce moment-là pour garder un peu de distance avec lui dans la descente, parce qu'il il a un peu de difficulté en descente.
Ouais.
Bon, ça c'est facile. Bon, et on va essayer de
corriger ça.
De corriger. Et puis à partir de là, il s'est accroché. Et franchement, le suspense a été jusqu'au bout, parce que ça aurait été un peu navrant de se faire avaler.
Ouais.
Puisque derrière, ils se sont pas amusés. Van den Broek a lancé l'hostilité dans la dernière bosse. Et derrière, ils se sont énervés.
Ah, ils n'étaient pas là pour amuser la galerie.
Ah, oui.
Effectivement, derrière, ils se sont livrés une belle bagarre et il a su résister au peloton. Alors, l'avenir, Lucho, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, c'est un garçon qui sur lequel il faudra compter. Et jusqu'à quel niveau? Est-ce que c'est un futur vainqueur du Tour? Est-ce que c'est un futur maillot à pois rouge?
Attends, te précipite pas. C'est un futur vainqueur du Tour.
Je pose des questions. Je pose des questions. Je veux avoir votre avis d'expert. Moi, je pose des questions naïves. Voilà, je suis le téléspectateur lambda. Je suis devant ma télé. Je vois un garçon de 22 ans gagné. Je me dis jusqu'où peut-il aller? Je vous demande. Je vous pose la question. Je ne m'emballe pas. Je vous pose des questions.
Alors déjà, il gagne l'étape aujourd'hui. C'est vraiment une très très belle étape. Bravo. Premier Tour de France, première victoire d'étape pour Thibaut Pinot à 22 ans, c'est formidable. Après, de là à dire que l'avenir pour lui sera tout rose, moi-même qui ai fait du vélo un petit peu et qui ai fait une carrière, on aura des hauts, on a des hauts, on a des bas, tout comme Pinot. Alors, est-ce qu'il pourra rentrer dans le top 5 du Tour? Ben oui, vu ce qu'il a fait aujourd'hui et vu ses qualités, il en a les moyens. Mais il va falloir lui laisser le temps de mûrir, de prendre de l'assurance, de prendre de la maturité. Et je pense qu'au fil des années, c'est vrai que Thibaut Pinot peut prétendre peut-être à pouvoir même être sur le podium du Tour, voire peut-être le gagner. Ça, on ne sait jamais. Mais il a démontré aujourd'hui des qualités exceptionnelles de sang-froid, de courage, et puis de devoir se maîtriser comme ça l'avance qu'il avait sur les 20 derniers kilomètres face à des grands favoris. Ben bravo. Donc oui, c'est un grand espoir.
Alors le problème, c'est que pour espérer remporter un grand Tour, il faut être un sérieux client dans le chrono, Cyril. Or, c'est un peu là que le bât blesse pour Thibaut, qui a des lacunes dans cet exercice, paraît-il.
Oui, il n'a jamais réalisé de très grandes performances. Il peut arriver à limiter les dégâts. Il a quand même que 22 ans. Il a encore une marge de progression. Enfin, on aura un début de réponse demain. Il y a 41 kilomètres, ça commence à devenir un contre-la-montre sérieux et surtout un test très sérieux. Alors, le problème, est-ce que demain, il va le faire à fond ou pas à fond? That is the question.
Ouais. Parce que
oui, il devrait.
Je
mais
pense
attends,
qu'il doit jouer déjà. Oui,
pour l'instant, là, ce soir, là, il est sur coussin d'air.
Voilà.
Hein, il est avec tous ses amis, sa famille. Il est fêté par tout le monde. C'est l'euphorie. Tout le monde le voit beau. Tout le monde le voit grand.
Demain.
Tout le monde le voit vainqueur du Tour. Donc, il y a tout un tas d'informations qui vont arriver autour de lui. Il faut arriver aussi à gérer cette pression. C'est vrai. C'est fabuleux ce qu'il a fait, mais le Tour de France, il n'y a déjà qu'une semaine de fête. Demain, sur le contre-la-montre, est-ce qu'il sera capable d'ici demain de se remettre dans le sens de la marche, de se remettre dans le sens de la course et vraiment d'être dans le match?
Mais de toute façon, on lui demande pas de briller cette année pour le général, hein. On sait que il a quand même l'avenir devant lui. Mais
oui, enfin, quand on est dans une course, bon, à ce moment-là, vous savez quand même que là, il a la possibilité de prendre le classement par points, le classement de la montagne, et que si on regarde bien au classement du meilleur jeune, quand on a vu Taramae qui a explosé aujourd'hui, il est qu'à une 14 de Taramae. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien aller chercher. Et si ça doit être un vainqueur du Tour dans les prochaines années, il doit être capable d'aller chercher le maillot blanc. Il n'est qu'à 1,14 de Pinot, de Taramae. Taramae va lui reprendre du temps.
Cyril, dans le chrono.
Oui, non, mais il va perdre du temps dans le chrono. Mais enfin, on a fait que deux étapes de montagne.
Tiens, Henri Pierre nous appelle au 32-16 des Bouches-du-Rhône. Henri Pierre, qui est un habitué d'Intégral Tour. Bonsoir, Henri Pierre.
Bonsoir Christophe, bonsoir la Dream Team.
Bonsoir.
Voilà. Bah, écoutez, moi je vous écoute, alors je suis d'accord avec tout ce que vous dites.
Oh, c'est parfait, on est d'accord tous.
Voilà. Alors le druide, c'est magnifique, mais il y a quand même quelque chose moi, qui m'a surpris, c'est que c'est depuis longtemps la première fois que je me suis levé de mon fauteuil et j'étais devant la télé comme un fou. Quoi.
Donc, mais voilà. On l'a vu d'ailleurs, on n'a pas voulu en faire un écho, mais c'est vrai que c'était spectaculaire.
Voilà, alors surtout que quand on regarde l'étape, elle est partie pratiquement dès le début. Il n'y a eu que de la folie dans cette étape. Il n'y a personne qui a rien voulu lâcher. On ne savait pas si on allait se laisser sortir les uns ou les autres. Et moi, ce qui m'a impressionné chez Tipeee, là, c'est quelque Tipeee. Chose de...
C'est le nouveau Tipeee, bien joué, Pierre.
Oui. Tipeee français. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il a montré des qualités de cœur, du panache, et que surtout derrière, quand il lui restait 30 secondes, et là, je peux croire que moi aussi, je fais un peu de vélo, il devait avoir tout en feu sur le truc, il n'a pas lâché. Derrière lui, il avait quand même les 5 plus gros leaders du Tour qui avaient tout fait pour revenir sur lui. Donc, moi, j'y crois. Et je me dis qu'un jour, ce mec-là, moi, j'y crois vraiment. Alors, je vais faire mon druide avant le druide. Dans 2-3 ans, je crois qu'il pourra prétendre à gagner le tour. Ça, moi, j'en suis convaincu. Ah ouais, moi, j'en suis convaincu.
On s'emballe un peu.
Ah, mais on attend. Mais Henri Pierre a raison. Thierry, Lucho. Mais voilà, on attend depuis tellement longtemps qu'il y en ait un qui nous régale.
Mais arrêtez, on s'est emballé par le passé sur notre coureur. Et puis, on l'a confirmé. Alors,
laissez-nous un peu d'enthousiasme.
Laissez-vous, les journalistes, laissez Pilot. Oui, tranquille, laissez-le mûrir tranquille, ne lui mettez pas la pression d'entrée parce qu'il a gagné aujourd'hui. Non, mais attendez,
on n'a plus le droit de s'enthousiasmer dans le vélo maintenant.
Bien sûr, mais bien sûr,
c'est
fini. Le problème
maintenant, faut attendre, faut se dire, on n'en gagnera plus jamais des Tours de France. Problème, c'est ça.
Mesure, il faut savoir garder.
Le problème de
mesure, il faut savoir garder.
Pose des questions et on
s'enthousiasme. Le problème de trop s'enthousiasmer sur un coureur comme vous l'avez fait par le passé, ça lui met trop de pression. Laissez-le tranquille, laissez-le dans son petit cocon avec Marc Madiot et tous à la Française des Jeux et laissez-le prendre la maturité tranquillement.
Et top. Un vrai champion, c'est quelqu'un qui sait supporter la pression, c'est quelqu'un qui a du caractère. Mais et là, ce garçon-là, on a du caractère.
Non, ça reste à démontrer.
Il est allé voir Marc Madiot pour lui dire Marc, je veux faire le tour. Alors que Marc ne l'avait pas prévu au départ du Tour de France. Aujourd'hui, Marc Madiot lui a dit tu restes au chaud dans le peloton. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas obéi à son directeur sportif, il est allé dans le coup, il a remporté l'étape.
Imaginons un seul instant que Marc Madiot lui dit il faut aller dans les coups. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort sur le premier coup avec Voigt et il gagne pas l'étape.
Et voilà.
D'accord. Oui, alors.
Parce que c'est quand vous êtes directeur sportif.
Tu veux démontrer qu'est-ce que tu veux?
Non, je veux démontrer que quand vous êtes directeur sportif, les consignes que vous donnez sont quelquefois à l'envers de ce que vous avez envie. Mais quand vous connaissez le tempérament du coureur, il y a des moments où il ne faut pas lui dire qu'il faut faire ça ou cela. Il faut plutôt l'en empêcher, ce qui va le mettre sur une certaine réserve. Et vous remarquerez qu'il a toujours été sur la réserve pendant toute l'échappée, sauf à partir du moment où Jérémy Roy a acheté l'éponge et que l'homme de tête n'était plus qu'à une minute. Et à partir de ce moment-là, il est sorti.
Il a toujours su partir au bon moment.
Si vous lui dites d'aller au charbon tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Ça devient un feu follet. Je veux être devant, chaude sur le premier qui bouge, chaude sur le deuxième, saute sur le troisième, et tu finis où? Tu finis dans le peloton. Parce que ceux qui finissent devant, c'est pas les premiers qu'on a vus. Hein, on pourrait reprendre tous les communiqués. Thibaut Pinot, vous ne le voyez pas. Parce qu'il sait qu'il va dans le coup, parce qu'il a les jambes, il y va, mais il reste sur la réserve. Il reste sur la réserve. Pourquoi? Parce que Marc Madiot lui a dit, non, tu dois pas aller dans les coups. Et là, il se dit, attends, j'ai peut-être fait une connerie. Non, j'aurais peut-être pas dû y aller. Ça va peut-être revenir et je vais péter sur le final. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reste en dedans. Et toute cette énergie qu'il n'a pas dépensée pour montrer, parce que n'oublions pas qu'il est chez lui depuis 2 jours. Et quand vous êtes chez vous, vous faites souvent des conneries. Et pour pas faire des conneries, il faut que vous ayez quelqu'un derrière qui d'un seul coup vous ferme. Et c'est ce que Marc Madiot a fait. Marc Madiot peut être fier.
Mais bien sûr, mais je pense qu'il est très fier. Tout à l'heure, on l'a vu s'enthousiasmer en tous les cas. On sait qu'avec Marc Madiot, Thierry, il est entre de bonnes mains, Thibaut Pinot. Parce que justement, nous, on va s'enthousiasmer, le public va s'enthousiasmer. Mais je pense que Marc va se charger de lui remettre les pieds sur terre si jamais il quitte la terre.
Attendez, on va essayer de faire en sorte que Marc Madiot revienne les pieds sur terre, là, déjà.
Oui, ben là, tout le monde est euphorie.
C'est bien quand même d'avoir un peu d'euphorie, de s'enthousiasmer. Parce que là, Lucho, il nous casse le truc. Non, stop, ne dites rien. Taisez-vous, enterrez-le, n'en parlez plus. Non, mais c'est pas vrai, quoi. Il faut s'enterrer.
Oui, mais on l'enterre avec une pipette.
Christophe, je suis un peu d'accord avec Lucho. C'est vrai qu'à trop s'enthousiasmer, on s'est souvent trompé. Donc c'est vrai qu'on s'est éclaté sur cette étape, on ne peut pas rester sur la réserve, mais faut arrêter de voir de suite chez Pinot le futur vainqueur du Tour de France ou autre chose. Il a gagné une étape, c'est très bien, et je pense que au sein de la FDJ Big Mat, il sera bien coucouné, il sera bien drivé par un grand directeur sportif qui va l'amener à maturité.
Vous le connaissez, Cyril, tu le connais un petit peu, Thibaut, c'est un garçon qui a la tête sur les épaules, je sais pas si Fred, qui est avec nous, si Fred le connaît un petit peu, on va peut-être lui poser la question, Thibaut Pinot, quel genre de caractère, quelle personnalité?
un gars de son temps qui tweet, qui est sur Facebook à fond, qui est fan du PSG, on l'a dit pendant le direct. Alors qu'il
non,
est...
mais au niveau de la personnalité, est-ce que c'est un garçon qui a du caractère?
Il va finir au Qatar.
Qui va... Des bonnes salades.
Ils vont monter une équipe.
Est-ce que tu penses qu'il peut prendre
relax,
la tête?
Non. Relax. Non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pendant le direct. À mon avis, ce jeune homme est déjà très mature, mais surtout, on va dire, élevé au grain. C'est un gars qui est originaire d'un village de Haute-Saône, à Mélisey, un village qui a été traversé par la course hier. Ce n'est pas une star locale comme pourrait l'être un coureur dans sa ville natale. Là, c'est quelqu'un qui est vraiment resté dans ses racines. C'est quelqu'un qui sait pourquoi il fait du vélo, parce qu'il est passionné, mais qui sait également que c'est devenu un métier depuis 2 ans, depuis son entrée dans la carrière professionnelle. Il a d'ailleurs investi sur lui-même, sur son avenir, sur sa carrière, en achetant un appartement. Il est toujours chez ses parents en Franche-Comté. Il a acheté un appartement non loin de la gare de Fresnay, de Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, plutôt reculé parce qu'il ne sera jamais...
Il va aller faire la fête à la Voile Rouge.
Non, justement pas. C'est à la Mole, exactement, dans une vallée de l'autre côté du Massif des Morts. Il n'est pas sur le bord de mer, il est là-bas pour bosser, pour profiter des conditions météo. Il n'est pas là-bas pour briller l'été, loin s'en faut. Vraiment un bon gars, et on ne lui tisse pas des lauriers parce qu'il vient de remporter une grande victoire ce soir. À mon avis, il ira loin et restera les pieds sur terre.
Eh ben, on l'espère. On espère que les petits cochons ne vont pas le croquer tout cru, notre Thibaut Pinot, qui, rappelons-le également, on l'a peut-être pas dit, a remporté cette étape le jour de la Saint-Thibaut. Ouais. Donc, bonne fête, Thibaut, et je pense que la fête sera belle et qu'avec tous ses équipiers ce soir, ils vont fêter ça. Comment on fête une victoire dans un Tour de France, une victoire d'étape, Lucho? Tu en as rapporté quelques-unes?
Moi qui étais avec Cyril, j'ai même pas bu de champagne.
Ouais, le directeur sportif paye le champagne
normalement.
Non, mais attention, et c'est ça le piège. Il faut savoir une chose, c'est qu'il reste 15 jours de course, donc il faut pas trop déborder ce soir.
Non,
une petite coupette de champagne.
Une petite coupette de champagne
au repas, et puis terminé au dîner.
Voilà, c'est pas comme.
Pas se faire réveiller trop tôt par les médias, parce qu'il a gagné l'étape, perturber le coureur, voilà quoi.
Ouais. Ah oui, on peut ajouter aussi.
Il faut savoir gérer l'après.
Dans sa récupération ce soir, il va quand même se faire tous les médias.
Il faut savoir.
Il les a fait déjà.
Ça veut dire que quand les autres sont à l'hôtel, il arrive 1h30 après.
Évidemment.
Donc il a juste le temps de prendre une petite coupe de champagne, d'appeler le PSG pour savoir s'il y a un contrat pour lui, et si éventuellement il ne ferait pas une équipe au Qatar avec lui. Quoi.
Félicitations à Thibaut Pinot, 22 ans, Benjamin du Tour de France. Il ne devait pas faire la grande boucle cette année. Il l'a faite et il a remporté cette magnifique étape, 8e étape, magnifiquement dessinée d'ailleurs. Il n'y a pas eu de répit aujourd'hui avec un public incroyable et des conditions atmosphériques magnifiques, alors que ce matin il tombait des cordes sur la Suisse. On en reparlera en tous les cas de ce Thibaut Pinot qui, rappelons-le, est 13e ce soir en général à 3 minutes 41 du maillot jaune Bradley Wiggins. D'ailleurs, eh bien, nous allons dans quelques instants parler de l'avenir immédiat, puisque ce sera le contre-la-montre de demain. Premier grand chrono de ce Tour de France, 41 km entre Arc-et-Senans et Besançon. Wiggins va-t-il écraser le Tour des demain? On va se poser la question et puis ensuite on va revenir sur les paris. On va revenir sur les paris, messieurs, aussi dans quelques instants. Parce que là, messieurs les coursiers, il faut avoir un peu de mal de temps en temps.
Attention
de garder les pieds sur terre, c'est ça que tu veux dire.
Ne prends pas la grosse tête.
L'intégral tour.
Pas trop vite.
L'intégral tour revient dans une petite minute. On va parler de tout ça tout de suite.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
L'intégral tour jusqu'à 20h pour revenir sur cette 8e étape entre Belfort et Porrentruy, 157 500 km, remportée donc, on en a parlé il y a quelques instants, par ce jeune coureur français nommé Thibaut Pinot, qui est sans doute un coureur d'avenir. On en a beaucoup parlé, on en reparlera probablement. Maintenant, nous allons nous intéresser, si vous le voulez bien, à la course de demain, mais auparavant on va jouer dans l'intégral tour. Et comme tous les soirs, nous vous offrons 5 paires de lunettes de soleil Tour de France. Pour gagner, il faut répondre à la question suivante. Quel Français a terminé 3e de l'étape du jour, remporté donc par Thibaut Pinot? Si vous pensez que la bonne réponse est A, Sandy Cazard, vous envoyez A par SMS au 7-32-16. Si vous pensez que la bonne réponse est Tony Galopin, vous envoyez B par SMS au 7-32-16. Bonne chance.
Les opticiens Vision Plus vous offrent vos lunettes de soleil Tour de France sur RMC.
Voilà, des lunettes de soleil, on en a bien besoin parce qu'il fait beau, il fait chaud sur la route du Tour. Et demain, ce sera également le cas, donc pour ce contre-la-montre de 41 500 km entre Arc-et-Senans et Besançon. La question qu'on se pose ce soir, avant de parier, c'est de savoir si Bradley Wiggins va écraser ou non le Tour de France dès le premier chrono de demain. Cyril, qu'est-ce que tu en penses? Bradley Wiggins est un redoutable spécialiste du chrono. Demain, c'est un exercice qu'il adore. Est-ce que il peut accentuer son maillot jaune à tel point que les autres n'auraient plus aucun espoir de le battre?
Je pense qu'il creusera des écarts demain, des écarts définitifs. Ça me paraît quand même un petit peu beaucoup. Je pense qu'il peut reprendre entre 30 secondes et on va dire une minute à Cadel Evans. Froome, c'est son équipier. Je pense qu'il prendra aussi un peu d'avance sur son équipier Froome. Le point d'interrogation, c'est est-ce que Nibali va rester dans une position où il pourra prétendre au podium? Ça n'est pas évident. Nibali oui. risque peut-être de perdre beaucoup demain sur les 41 km. Je pense que même si donc Wiggins prend du temps à Cadel Evans, ça ne condamnera pas Cadel Evans au second rôle.
Ouais. Lucho, écrasé, oh. pas écrasé
Écrasé, non. Je pense que bon, le contre-la-montre est quand même favorable, entre guillemets, pour Cadel Evans. Pourquoi? Parce que bon, c'est un contre-la-montre, il n'est pas tout plat, il y a quand même des petites bosses dans la journée, assez sinueux. Donc ça va limiter la casse un petit peu pour Cadel Evans. Il est vrai que Bradley Wiggins, c'est un très grand spécialiste, voire le plus grand spécialiste au monde avec le Suisse Cancellara. Donc c'est vrai que Cancellara, bon, bien sûr,
on l'oublie
demain. Bon, c'est le grand favori, mais pour le classement général, c'est Wiggins. C'est Evans, c'est Nibali. Et comme le disait Cyril tout à l'heure, le grand point d'interrogation, c'est de savoir combien de temps va perdre Nibali sur ce chrono demain.
Ouais. Donc c'est ça la question. C'est pas de savoir. Wiggins va gagner, il va prendre une minute. Ce qui vous intéresse, c'est le podium. Donc ça veut dire que la victoire, elle est déjà dessinée.
Non, pas du tout. Mais je veux dire, le fait que Cadel Evans perde un peu de temps sur Wiggins là demain, ça veut pas dire qu'il a perdu le classement général pour le Tour de France. Hein. Il reste encore un long chemin à parcourir d'ici les Champs Élysées. Donc c'est pour ça que même s'il perd une minute, Evans, c'est pas grave.
Il reste le meilleur après. Les Pyrénées, je pense que Cadel Evans pourra s'exprimer au mieux comme il a essayé de faire aujourd'hui. Mettre en difficulté Wiggins dans les descentes, et pour ça il aura peut-être Vandenbroucke, il aura peut-être Nibali. Même si j'ai peur que Nibali prenne un sacré retard dans le chrono.
Entre nous, hein, bon, on va pas parler sur lui très longtemps, mais Vandenbroucke, s'il avait pas eu son incident hier, je peux te dire qu'il aurait été dans le groupe avec Evans, avec Nibali et tout ça, il aurait attaqué. Il a fait quand même un petit numéro aujourd'hui, hein, Vandenbroucke. Attention, il est très très fort, très très fort.
Évidemment, il est très fort.
Mais c'est pas fini pour lui.
C'est
pas
fini.
Ça peut être un allié.
2 minutes 11.
Ça peut être un allié de Cadel Evans dans les Alpes et les Pyrénées. Attention.
Ouais, il peut dynamiter effectivement la course. Ce qui est étonnant concernant, j'y reviens à mon débat entre Wiggins et Evans et les autres, c'est que l'année dernière, Cyril, Cadel Evans est remporté presque le tour, dans les chronos, c'est là où il était le plus fort, mais là il a trouvé son maître en la personne de Bradley Wiggins, qui est une dent au-dessus de Evans dans cet exercice.
Oui, c'est vrai, mais ça n'est pas contre la montre qu'il a gagné, long du tour. Hein. Oui. Il a été dans des situations difficiles, rappelez-vous, ne Galibier. Serait-ce que dans le Galibier, il a été dans la Croix de Fer, à chaque fois il a eu une capacité à répondre aux attaques, à rétablir les situations, et c'est surtout là qu'il a gagné, qu'il a gagné le tour. Ensuite, bien sûr, les contre-la-montre lui ont permis d'asseoir.
C'est un bon spécialiste de contre-la-montre, sa
victoire.
Il est meilleur que Schleck et que Contador.
Contador, à une certaine époque. C'est vrai qu'il volait au-dessus de tout le monde à une certaine époque. Il mangeait beaucoup de viande.
Le contre-la-montre d'Annecy, d'ailleurs.
Là, cette année, il a en face de lui. Il a en face de lui un adversaire qui a deux atouts. Il va plus vite que lui contre la montre. Et puis surtout, il a une équipe monstrueuse. Et il a un lieutenant, Alexander Froome. Attendez, c'est
Christopher.
Christopher Froome, c'est énorme d'avoir à côté de soi un lieutenant qui d'ailleurs, enfin, peut-être qu'il s'en méfie parce que s'il a une défaillance, c'est peut-être l'autre qui pourrait passer. Mais pour Cadel Evans, il est quand même complètement encerclé. Quoi.
Ouais. Encerclé, entouré par une bande d'Indiens nommée les Sky. Tiens, vous savez, hier on a fait une petite comparaison entre le train postal et les Sky. Alors tout à l'heure en conférence de presse, Bradley Wiggins s'est emporté contre ces comparaisons, interrogé sur le sujet par un journaliste en conférence de presse, et il a répondu à propos des tweets, hein, puisque sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme nous, ont comparé un peu ce qui s'était passé hier avec l'époque de Lance Armstrong et du train postal. Le Britannique a répondu: honnêtement, ce sont des putains de branleurs, je ne supporte pas les gens comme ça, ça explique leur propre oisiveté parce qu'ils ne peuvent pas imaginer s'impliquer dans quoi que ce soit dans leur propre vie. C'est facile pour eux de s'asseoir là derrière un pseudonyme sur Twitter et d'écrire leur merde plutôt que se lever le cul et d'aller travailler dur pour réaliser quelque chose. Il a été énervé quand même. Hein,
il a un sacré caractère.
Il a du caractère, le British.
Il a raison.
Ouais, ouais. Allez, on va parier puisqu'il a raison et qu'on est tous des, comment il dit, les branleurs.
Il a raison sur le fait que c'est facile de mettre un pseudo et de balancer comme ça, quoi, sous un pseudo.
Non, on le dit pas sous pseudo.
Il est vrai que dans le politiquement correct, lorsque vous avez des chefs de communication qui vous disent ce qu'il faut dire, c'est pas ça qu'on vous dit de dire. Donc il a sa libre parole, c'est très bien.
Il fait partie de mon clan. Ce sera encore mieux. Ouais. S'il pouvait l'exprimer en français, il parle un français remarquable. Il refuse de parler en français aux radios françaises. C'est dommage. Allez, les paris, Benji, on est là.
PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker.
Monsieur Benji.
Non, c'est monsieur, c'est sûr, aujourd'hui. Bonjour à tous.
Et t'entends un peu Christophe comme il a fait.
Non, je sens la voix changer depuis une heure ou deux, là, j'ai l'impression.
Il a gagné le classement général.
Bravo, Christophe. Bravo.
Ah, écoutez, c'est des choses qui arrivent, mais il faut prendre les étapes les unes après les autres. Je ne vais pas m'avouer tout de suite vainqueur de ce Tour de France. Mais les putains de branleurs qui pensent que je vais pas le gagner.
Et messieurs, pensez-vous que Christophe est capable de gagner le Tour après son étape fantastique qu'il a réalisé aujourd'hui?
Ouais. Allez. Alors Benji, explique-nous, donne-nous les classements quand même après cette.
Pour ceux qui n'ont pas entendu ou ceux qui doutent de la sincérité de Christophe, on va juste réécouter.
Je vais donner Thibaut Pinot pour demain, tiens. Voilà, parce qu'ils sont encore.
Quel
un peu
montage.
Sur cette terre.
Oh.
Jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot.
Mais Gilbert, grosse réaction de Gilbert Brébois, Christophe, à la victoire de Thibaut Pinot.
Bon, alors les classements.
Et alors tu es en jaune, et alors là ça va être vraiment dur d'aller te chercher puisque tu es désormais à 779 euros de bénéfice depuis le début du tour. Tu prends le maillot à poids également. Cyril Guimard résiste avec le classement du maillot vert, mais Christophe, bravo, parce que là le jaune risque d'aller jusqu'à Paris.
On verra, comme je vous le disais. On va prendre les étapes les unes après les autres. On va parier sur l'étape de demain. Maintenant, moi, je vais gérer. Je vais vous donner le vainqueur de demain.
Christophe.
Je vais donner Fabien Cancellara pour demain. Voilà, comme ça, moi, c'est fait. Hein, je ne prends plus de risque maintenant. Messieurs, à vous de donner votre vainqueur.
Moi, je crois que je vais donner un mec qui est vraiment très loin.
Ça arrive une fois, mais pas sur un chrono.
Moi, j'ai essayé plein de fois, ça m'est jamais arrivé.
Oui, mais là sur le chrono, ça n'arrivera jamais.
Comme tu mets Cancellara, parce que les cotes, c'est quoi, Benji?
C'est Cancellara le grand favori, 2,05. Derrière, Bradley Wiggins 2,80, Martin à 9,50. Et puis tiens, comme je suis aussi bien que Lucho dans ce classement, moi je vais donner Cadel Evans. On sait jamais, parce que la cote est à 26. Alors je tente.
Non,
c'est une tentative désespérée, mon cher.
Ah non, je suis complètement désespéré.
Lucho, tu l'as trouvé ton coureur là?
Non, pour pas exploser complètement, je vais mettre Cancellara.
Ah voilà, maintenant je suis le leader et tu prends ma roue.
Oui.
Cyril.
Ben écoutez, maintenant que je suis un petit peu décroché, je vais prendre des risques. Je vais donner Tony Martin.
Tony Martin, il était à l'arrêt encore.
Il y a des points en plus qu'il a un handicap de 4 minutes. comme il court avec un scaphoïde cassé.
Ouais, mais il est plus léger parce qu'il a du vernis en moins.
C'est bon, je vais revenir dans la route, Cyril.
Thierry, vas-y, à toi, mon Thierry.
Bon, allez, je vais rester propre.
Vas-y,
Cancellara.
C'est pas comme ça que vous allez reprendre la tête de la course, les gars.
Messieurs, le coup que tu as fait aujourd'hui, d'accord? Oui, Wiggins avec le maillot jaune sur le dos, il peut être transcendé.
Ouais. Surtout qu'il aura les écarts, quoi, tu vois.
Eh ben, puisque c'est comme ça, les Wiggins. Bah
voilà, Wiggins, voilà. Il a une belle cote. Hein,
de toute façon,
2,80, c'est pas mal.
À ce niveau-là, de toute façon, ça, je risque rien.
très bien.
Je ne risque plus rien d'ailleurs.
Bon, eh ben, on verra ça demain en tous les cas pour les paris. On en parlera demain en début de direct, Benji.
Ouais, moi, je vais t'appeler Christophe Froome hein, désormais, parce que t'as sucé la route ton leader Cyril Guimard depuis le début, et là tu le dépasses comme ça.
Si t'as vu la braquasse,
sans le prévenir, c'est très moche.
Et Christophe, pourquoi tu lui as mis un coup de pied en passant?
Ah non, mais c'est le coup de pied de l'âne.
C'est pas sympa du tout.
Merci Benji, à demain évidemment, messieurs. Pour parier à nouveau.
PMU. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Ah, je vais trop vite, je suis trop pressé.
Non, mais je pense que tu vas exploser
en
route.
Ah oui, je pense.
Tu vas exploser en route.
Il est là, Dédé, avec nous comme tous les soirs. Ça va, André, de l'Assemblée du département. Alors, demain, c'est un contre-la-montre.
Oui, de 41,5 km au départ d'Arc-et-Senans pour une arrivée à Besançon. Avec quelques petites difficultés, ce sont surtout des virages serrés qui ont retenu notre attention. Un premier virage serré à gauche vers Champagne-sur-Loup, kilomètre 4,5.
C'est pas tout droit.
Non, ça tourne. Il y a des changements de direction qui sont assez brusques et qui pourraient éventuellement faire la différence. Autre virage serré en sortie de Montferrand-le-Château, kilomètre 22,5. Virage très serré à droite. D'autres changements de direction au 36,4 et au 38,5. Donc il y en a quand même plusieurs. Ouais. Et puis un dernier virage serré à moins de 500 mètres de l'arrivée. Donc ça tourne demain.
Ouais, ça tourne, ouais. Cyril. Ça peut avantager.
Cancellara
plutôt. Ouais. Ça, je ne savais pas avant de parier.
Si.
Et la météo
est plutôt bonne. De moins en moins de nuages. Retour du soleil.
Oh là là,
température 18 à 20 degrés. Il n'y aura pas d'eau entre Arc-et-Senans et Besançon.
Eh bah, tant mieux. Parce que ce matin, quand on s'est levé, c'était quand même la catastrophe.
Ouais.
Merci André, on se retrouve demain évidemment.
À demain.
Début de direct aux alentours de 15h40 pour justement parler de ce contre-la-montre qui va nous animer demain. Les coureurs qui seront donc dans ce chrono de 41,5 km. Voilà, c'est terminé pour nous ce soir. On se retrouve demain à partir de 15h pour l'intégral tour. Et puis en attendant, on va voir si Sébastien Darras et Ibrahim ont été aussi bons que nous, que moi plus exactement.
Non, je te dis, tu vas exploser en route, attention.
Il a la grosse tête déjà.
Ah non, la grosse tête, c'est infernal quand même.
Allez,
c'est
Sébastien, pour le débrief des cours, Sébastien.
Salut Christophe, on n'a pas été mauvais aujourd'hui. On indique les deux premiers du quintet, pas de mérite avec le 2 Green Tango qui était favori, qui s'est imposé. En revanche, pas mal, la deuxième place du 5 Gold Tara, dont la cote avoisinait les 15 contre 1. La troisième place pour l'As Solmen, la quatrième pour le 13 Twist and Run devant le 17 Floating World. 2, 5, As, 13 et 17. Un beau quintet, hein, plus de 292 000 euros dans l'ordre. Demain, mon cher Brahim, on prend la direction de l'hippodrome de Chantilly, l'hippodrome des Princes de Condé. Je sais que c'est ton truc. 20 partants, dès 3 ans, une épreuve très difficile à déchiffrer.
Effectivement, Sébastien, et moi je vais faire confiance au numéro 15, Codan, qui vient de prouver qu'elle avait la pointure dans cette catégorie avec Stéphane Pasquier en selle. Je pense qu'elle a toute sa chance.
Ouais, je pense aussi qu'elle a sa chance, malgré son numéro 19 dans les stalles de départ. C'est une attentiste, elle attend. Donc pas de problème pour cette pouliche. Je vous conseille le 12, Survic, à mon avis, c'est la base intégrale de cette épreuve. Et pour une petite cote, le 16, Pink Annabella, qui dépend d'un entraînement, d'un entourage qui marche sur l'eau actuellement. Le 12, le 16 et pour toi le 15. Les bonnes infos, comme d'habitude, sur rmcsport.fr.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.